l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5500 francs par jour seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Retour ce matin sur la mission de la délégation Outre-mer de l'Assemblée nationale sur le territoire. Et pour en parler, vous recevez le député LR Philippe Gosselin.
Philippe Gosselin, bonjour.
Bonjour.
Député de la première circonscription de la Manche, vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, membre de la délégation aux Outre-mer. L'objectif de cette mission sur le territoire, c'est quoi exactement ?
Bah écoutez, c'est une mission qui est plus large que la Nouvelle-Calédonie. C'est prendre au mot le président de la République, en tout cas se documenter sur les transformations éventuelles des statuts des collectivités d'outre-mer. Donc voilà, il y a une boîte qui est ouverte depuis quelques mois. Je mets la Nouvelle-Calédonie à part, puisqu'évidemment, il y a un statut constitutionnel. Il y a des choses beaucoup plus lourdes à gérer, plus compliquées à gérer sans doute en Nouvelle-Calédonie. Donc on est là dans une mission qui nous mène dans l'océan Indien en février, Mayotte, La Réunion, et vous voyez que Mayotte c'est pas simple non plus par exemple. Là nous sommes dans le Pacifique pour 15 jours, dont une semaine ici en Nouvelle-Calédonie. On fait Wallis et Futuna, Polynésie la semaine prochaine, chez vous, dans ce beau pays ici, et puis nous serons en Antilles-Guyane le mois prochain. Donc c'est une mission lourde, importante et évidemment avec un cœur de réacteur ici à Nouméa et dans l'ensemble du territoire néo-calédonien.
Parce qu'ici, on imagine que l'objectif, c'est quand même aussi d'avoir le maximum d'informations, de réactions, d'éléments sur les deux projets de loi.
Oui.
Qui sont actuellement sur la table.
Exactement, il est important que la représentation nationale, les députés soient au courant. D'ailleurs, on voit bien que les parlementaires tout de suite se bousculent un peu ici. On a une mission avec Philippe Bas qui arrive pour 2 jours ici. Nous y venons, on termine d'y passer la semaine. Oui, il est important qu'on ait un peu les tenants, les aboutissants. C'est pas simplement le texte, bien évidemment. Ça, on le connaît déjà, le texte et le texte du report des élections provinciales et le texte constitutionnel. Mais il est important de bien mesurer l'état des esprit de l'opinion et pas simplement des partis politiques, c'est important évidemment, des forces en présence, mais aussi des forces économiques. On a rencontré plusieurs acteurs du monde économique, l'inquiétude, parce qu'en toile de fond, et on va sans doute en parler, il y a aussi une grave crise qui est déjà là et qui risque réellement de s'amplifier, du nickel qui touche à l'ensemble de l'activité en réalité économique de l'archipel. Donc c'est compliqué sur ce point-là.
Et je sens que vous dites aux interlocuteurs, ils sont surtout préoccupés par l'évolution institutionnelle ou par cette crise du nickel qui va frapper l'ensemble de l'économie ?
Bah écoutez, nous, on s'attendait à avoir des alertes et elles sont très nombreuses sur la partie institutionnelle, bien évidemment, et on va sans doute en reparler aussi. Mais il y a une prise de conscience en ce moment très forte qui me paraît importante et tant mieux parce que on aurait pu mettre sous le tapis ces questions économiques liées au nickel, etc. Mais là, elles sont en train de se rattraper, de se rappeler à la présence de tout le monde, ce qui en réalité continue un peu ce qui se fait depuis 25 ou 30 ans. Le nickel a toujours été à la fois une force importante économique, peut-être parfois un peu fantasmé, mais là, c'est plus le fantasme ou du rêve ou je ne sais quoi, c'est plutôt la dure réalité des choses. Je pense à la fermeture possible, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais possible du Nord, quand même plus que vraisemblable à l'heure où nous parlons, mais aussi 2 autres usines qui sont dans des situations pas si simples que ça non plus. Donc la toile de fond est là et on ne peut pas séparer l'un de l'autre.
Alors votre mission est composée d'autres députés, notamment le député de Guyane, Davy Riemann, qui est le président de la délégation.
Président de la délégation, c'est bien ça.
Et le député polynésien Tematai Le Gaïc, qui est un indépendantiste
tout à
polynésien.
Fait.
Mission pluraliste, donc oui. Ça complique les choses ou ça enrichit les débats ? Comment ça se passe ?
Alors écoutez, je vais vous dire, moi qui suis normand, un peu les deux, voilà, d'un coup et de mec, non, je vais faire sourire vos auditeurs avec cette image. Non, très, très sérieusement, c'est plutôt une richesse. C'est plutôt une richesse, soyons clairs, moi je suis, et je l'ai toujours dit, pour le lien du maintien français. Alors qu'est-ce qu'on met dedans ? C'est toujours le vrai sujet, hein, on est bien d'accord, mais voilà, la Nouvelle-Calédonie, pour moi, elle est française, avec une histoire qui peut et qui sera toujours compliquée. Je vais pas reprendre le préambule que vous connaissez bien de certains accords sur les ombres et lumières, mais c'est sans doute le cas. Mais on a un autonomiste, hein, un collègue guyanais, je dis bien autonomiste et pas indépendantiste, on a un indépendantiste, là aussi c'est un fait un peu nouveau en Polynésie, mais il y a du respect, il y a de l'écoute entre nous, évidemment, de la compréhension, et si nos points de conclusion peuvent être différents, effectivement, En revanche, et là on le voit bien, on a mené plus de 45 heures de rencontres et d'auditions déjà, hein, et on a encore une journée complète devant nous, on partage clairement les warnings, les alertes, et ce qui nous est dit depuis le début de la semaine, et ça, parfois les faits sont têtus, vous savez, quelles que soient les étiquettes politiques, on a des alertes que l'on ressent, et on a bien vu les sujets principaux économiques, je l'ai rappelé il y a quelques instants, mais aussi des sujets évidemment et éminemment institutionnels. C'est le report, et ça sera examiné ce lundi, le 18.
Ce report, on a l'impression que c'est... Il y a très peu d'opposition finalement.
Globalement.
Le Sénat l'a déjà examiné, l'Assemblée nationale l'a examiné lundi. Ça va passer sans problème, mais ici, vous n'avez pas senti d'opposition véritable.
Le report des provinciales au mois de décembre au plus tard. Non, effectivement, ce n'était pas nécessairement le souhait au départ de tous les participants et protagonistes. Maintenant, voilà, il y a ce qu'on va appeler la réelle politique. Hein, les faits sont têtus. Organiser maintenant les élections provinciales au mois de mai, ça serait mission totalement impossible et ça n'aurait pas de sens. Donc oui, ce texte sera voté. Il l'a été au Sénat. Il y aura sans doute quelques débats un peu plus âpres à l'Assemblée parce que c'est souvent un peu un chaudron qui est un peu plus chaud. Mais globalement, c'est pas là où le sujet existe vraiment. C'est bien sur la question du dégel du corps électoral avec là non pas une loi organique, qui est déjà une loi un peu costaud, je vais le dire assez simplement et de façon non juridique, mais une loi qui n'est pas la loi ordinaire. Hein, elle doit être votée en termes identiques. Contrôle du Conseil constitutionnel, c'est pas rien. Mais là, pour le reste, on serait sur une révision de la Constitution. Et on voit bien que à la fois le sujet du dégel peut poser un certain nombre de questions, et on va y revenir. Et puis, sur l'enclenchement ou pas, dès maintenant, de ce dégel, et le souhait d'attendre un accord plus global pour d'autres. Et tout ça, on doit l'entendre. Après, il y a ce qui est possible, souhaitable et le réalisable.
Alors, ce dégel ou cette modification du corps électoral pour intégrer les natifs et les personnes qui sont résidents depuis plus de 10 ans en Nouvelle-Calédonie, on a le sentiment aussi que c'est incontournable, puisque sinon les élections ne pourraient pas se tenir et pourraient être contestées. Donc, est-ce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde aujourd'hui de se bloquer, que certains se bloquent sur ce refus de cette révision constitutionnelle? Est-ce qu'elle n'est pas finalement indispensable, nécessaire?
Moi, je pense qu'elle le sera, évidemment, à un moment ou à un autre. Mais soyons clairs, ça fait 15 ans maintenant que je suis le dossier calédonien. C'est la quatrième fois que j'y viens, alors c'est pas beaucoup. Moi, je n'ai pas le regard que vous avez, vous qui habitez depuis de nombreuses années ici, ni celui d'une très grande majorité de vos auditeurs. Mais quand même, il y a quelques petites touches. Et on voit bien que depuis le début, ces histoires, il y a des fils rouges. L'histoire du corps électoral, je devrais dire des trois corps électoraux, c'est un sujet. Et là, effectivement, il focalise l'attention. Mais au-delà, même si on n'a pas fini nos auditions, on a encore une journée complète, tout le monde aujourd'hui admet plus ou moins ouvertement qu'il faudra bien revoir ce corps électoral. Et là, je dirais, sans trahir de secret sur nos échanges, toute la partie native, les 12 000, 12 500, je dirais, c'est presque déjà réglé, parce que tout le monde...
Ça ne fait plus débat.
Donc, sur ce point-là, on a réellement déjà progressé. Reste éventuellement, pour les autres, l'opportunité de le faire ou pas, mais c'est sur la table, très clairement, là aussi. Un sujet un peu urticant, c'est les 10 ans glissants, un peu moins, voire beaucoup moins pour certains, plus pour d'autres, parfois un refus, encore chez certains indépendantistes, mais... Le sujet, je pense qu'il est en capacité d'évoluer, et me semble-t-il, dans un sens à la fois tenant compte des réalités et du projet néo-calédonien, tout en respectant, oui, ça va être dit en même temps, moi qui ne suis pas macroniste, mais tout en respectant la démocratie. Le point de départ de la démocratie, c'est quand même un homme avec un grand H, une voix. Donc, qu'on soit citoyen dès 18 ans et avec l'ouverture à chacun. Donc, pour des raisons historiques particulières, à cette volonté aussi de faire évoluer le territoire. On a mis un peu tout ça en parenthèse avec la réforme constitutionnelle que vous connaissez, le titre 13 de la Constitution, mais ça ne peut pas durer indéfiniment. Maintenant, la question est de savoir si on doit le faire maintenant ou dans quelques mois, ça peut être un sujet, et on voit bien qu'il y a des interrogations là-dessus, bien évidemment. La main est au gouvernement hein, sur un tel sujet. Il faut avoir en toile de fond l'aspect économique aussi qui pourrait apporter une situation délicate. Donc tout ça est à mesurer.
Le gouvernement qui semble vouloir en objectif prioritaire un accord des partenaires calédoniens, un accord institutionnel pour trouver une solution après l'accord de Nouméa. Est-ce que le calendrier vous paraît tenable? Est-ce qu'il pourrait y avoir cette révision constitutionnelle qu'on envisageait pour le mois de juin même s'il n'y a pas d'accord, comment est-ce que vous voyez les choses et quelle solution, selon vous, est la plus harmonieuse ?
Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, l'état d'esprit n'est pas à la signature de l'accord en fin de journée ce vendredi.
Vous ne l'avez pas senti chez vos interlocuteurs ?
Non, mais pour autant, moi, il me semble que l'état d'esprit n'est plus tout à fait le même que celui qui était là, qui préfigurait il y a encore quelques mois. Donc, je dirais, malgré les positions des uns ou des autres, et moi, je n'ai pas de problème avec ça, on voit bien que le contexte, l'ambiance évolue quand même. Maintenant, moi, je vais vous dire, jusqu'à présent, c'est l'Assemblée nationale comme le Sénat se sont plutôt, sur le dossier calédonien, posés en greffier. On prenait acte des décisions consensuelles des acteurs de ce territoire. Et au fond du fond, moi je serai prêt à trancher quand il le faudra, je suis député de la nation, j'ai la légitimité démocratique pour prendre mes responsabilités, mais je pense, comme beaucoup de mes collègues parlementaires, au-delà des sensibilités, nous préférerions pouvoir être greffiers, là encore, c'est-à-dire acter par un vote du Parlement ou des votes, acter un accord ici. Est-ce que tous les ingrédients sont aujourd'hui totalement réunis? Ça, c'est vrai que c'est un sujet. On risque d'être rattrapé par le temps. Maintenant, sur un tel sujet comme celui du dégel, on peut estimer qu'il faut un peu de temps encore au temps. Mais soyons clairs, ça ne peut pas être le sujet, le boulet qu'on va continuer à trimballer pendant des mois et des années. Le sujet, il est là, il va bien falloir le traiter. Maintenant, s'il fallait ajuster à quelques mois, peut-être que c'est un sujet, et je ne vais pas me prononcer à ce stade, puisque la mission n'est pas finie et il faut qu'on travaille tout ça. Mais ça ne serait peut-être pas pour autant la révolution. Mais attention à ce qu'il n'y ait pas de télescopage trop important entre le contexte économique qui, encore une fois, est en train d'évoluer très fortement et lourdement et l'aspect institutionnel. Il ne faut pas qu'on soit sur de la TNT.
Alors sur ce projet de révision constitutionnelle et aussi cet amendement que souhaite défendre les loyers, c'est le Rassemblement, vous le savez, pour modifier également la représentation des provinces au sein du Congrès. Est-ce que sur ce point-là, il y aura un soutien de votre part, de votre groupe ? Est-ce que c'est un amendement qui peut éventuellement passer, à votre avis ?
Alors, en tout cas, c'est un amendement qui fait débat. Hein. On voit bien là aussi, je crois qu'il n'y a pas un seul groupe qui n'en est pas parlé. Ben, c'est vrai que c'est à mettre dans le débat démocratique. Hein. La jurisprudence du Conseil constitutionnel constante sur les redécoupages électoraux, sur la représentation, précise toujours que la répartition doit être, dans les différentes institutions, sur des bases essentiellement démographiques. Donc ça veut dire que la démographie tient une place prépondérante. Maintenant, il y aura vraisemblablement un amendement déposé d'abord au Sénat. On verra ce qu'en feront les sénateurs. Mais clairement, on ne peut pas dire que le sujet n'est pas évoqué. C'est sans doute d'ailleurs un bon moment aussi pour l'évoquer. Est-ce que ça va prospérer jusqu'au bout? Là, je vous laisserai, je vais faire celui qui se détache un peu. Je vous laisserai, le cas échéant, poser la question à la mission sénatoriale qui arrive pour deux jours ce week-end, puisque en réalité le « là » sur cette question-là sera donné par le Sénat en première lecture, mais moi je comprends que ça puisse être une question. Quand on se pose la question de rééquilibrage, de réforme, de poursuite et bâtir l'avenir, il est normal que tous les sujets, et celui-là est un sujet important, soient sur la table. Personne ne peut être choqué par cela. Là aussi, question de savoir si c'est le bon moment, mais nous saurons nous adapter et prendre nos responsabilités.
Cette révision constitutionnelle concernant la Nouvelle-Calédonie, vous pensez qu'elle va pouvoir se tenir au mois de juin? Ça a été annoncé en début de semaine dans le calendrier. Et elle va pouvoir recueillir cette majorité des 3/5. C'est envisageable, au-delà même de la Calédonie, dans le climat politique général.
Le climat politique est compliqué, vous le savez bien. Les braises, un peu de toutes parts, sont, y compris à l'Hexagone, hein, dans l'Hexagone, sont chaudes. Il y a une vraie frébrilité, une ambiance au Parlement qui est quand même un peu compliquée. On est aussi dans une période où il ne se passe plus grand-chose en termes de réformes, hein, alors que là, on a des choses importantes. Moi, j'aurais tendance à vous dire une chose, et de faire adopter une réforme pour inscrire l'IVG dans la Constitution. 90% de l'opinion publique était pour, vous avez vu le résultat, c'est un oui écrasant, en quelques jours l'affaire était réglée.
Vous êtes un de ceux qui avaient voté contre.
Oui, tout à fait, parce que j'estimais qu'on importait un débat étranger dans des institutions où la question ne se pose pas. L'IVG aujourd'hui en France, et j'ai pas du tout l'intention de supprimer l'IVG en France, comme d'ailleurs aucun parti politique, mais je termine la parenthèse, et effectivement on importe un débat juridique, on était dans la force du symbole qui peut avoir son mérite, mais là, sur la Nouvelle-Calédonie, on n'est pas sur la force du symbole. On est, le cas échéant, avec une révision constitutionnelle sur le mode d'emploi du territoire pour de longues années. C'est pas rien. Et évidemment, les majorités ne seront pas du tout comparables. Et il peut y avoir, en effet, un vrai sujet sur les 3/5. C'est la majorité qu'il faut avoir au Congrès. Il n'est pas certain qu'aujourd'hui, toutes les conditions soient réunies. C'est une interrogation. J'ai pas la réponse, parce que justement les débats parlementaires sur ce point de la révision constitutionnelle Nouvelle-Calédonie sont à peine avancés. Vous voyez, la mission, la nôtre, Assemblée nationale, est là cette semaine, celle du Sénat arrive pour le week-end, donc tout ça est en train de se mettre en place. On voit déjà quelques warnings, lignes de conduite, etc. En tout point, restez prudent, et sur des sujets comme ça, je le dis, c'est pas pour me défausser ou faire du langage, faut toujours être humble et être à l'écoute du territoire. C'était l'objet de notre mission. Plus écouter, prendre la température que d'imposer des solutions qui, de toute façon, sont d'abord et avant tout dans la main ou à la main du gouvernement. Et là, le Parlement peut et doit prendre ses responsabilités, mais ce n'est pas lui, clairement, qui a la main sur un certain nombre de choses. Mais que chacun soit à sa place, le Parlement n'est pas croupion en France, et sur un sujet comme ça, il a tout son mot à dire, bien évidemment.
Philippe Gosselin, merci d'accepter notre invitation ce matin.
Merci à vous, bonne journée à tous.